Bonjour à tous. J'ai mis pour titre à ce message « Quels sont les vrais fils de Dieu ?» Et j'aimerais qu'on commence en prenant la lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 23. On va lire deux versets, mais qui en disent long. Luc 23, et nous lisons les versets 42 et 43. Jésus est sur la croix entouré de deux brigands, et l'un d'eux dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Une deuxième lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, qui, elle, sera un petit peu plus longue. Et on commence à partir du verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure pour toujours. Si donc le fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham !» Jésus leur dit, « Si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. » On va s'arrêter là. On en arrive à une triste conclusion ici. C'est que pourquoi j'ai fait ces deux lectures ? Je voudrais pas être mal compris déjà d'entrée de jeu. Je vais déjà le dire, je ne vais pas parler, je vais parler de brigands, je vais parler de pharisiens. Mes propos ne vont pas s'arrêter au sujet des fonctions. D'ailleurs, la Bible nous fait part de quelques pharisiens qui se sont convertis. On a l'exemple de Nicodème, on a l'exemple de Joseph d'Arimathée, on a le bel exemple de Saul de Tarse, qui était un pharisien par excellence, qui s'est converti et qui nous a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Il y a aussi sur la croix un brigand qui ne s'est pas converti. Donc je ne suis pas en train de dire il faut être un brigand, il faut pas être un frère. Ce n'est pas du tout ce que je vais parler ce soir. Il s'agit de choix que nous faisons, tout simplement. Quelle que soit notre vie, quelle que soit notre situation, il s'agit de faire le bon choix. Là où on se trouve, dans la situation dans laquelle on est, dans les besoins qu'on peut avoir, etc., la vie peut nous amener à faire ce choix-là. Donc je vais faire une comparaison, effectivement, entre deux personnes. Mais comprenez-moi bien, ce n'est pas les fonctions que je compare. C'est les attitudes de l'un et de l'autre. D'accord ? J'aimerais commencer par les pharisiens. Ici, on a Jésus s'adresse à des pharisiens qui sont persuadés d'être fils d'Abraham. Quand ils disent ça, il y a une certaine profondeur dans les propos parce qu'ils disent par là qu'ils sont les héritiers d'une promesse de Dieu, une promesse de bénédiction, et ils sont persuadés qu'un jour, ils se retrouveront avec Dieu au ciel. Ça, c'est ce dont ils étaient persuadés. À côté de ça, on a un homme sur une croix qui, lui, est persuadé qu'il va dans une toute autre direction, qu'il va droit en enfer. Et il commence à frémir sur sa croix. Je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de regarder un peu plus en détail ces deux personnes. Enfin, je considère les pharisiens comme une personne, j'en englobe, parce que là, on a un passage qui parle de plusieurs personnes. Donc, voilà. Mais comme je redis, tous n'étaient pas concernés. Les pharisiens, ce sont des personnes irréprochables. Les pharisiens, ils ont grandi depuis leur plus jeune âge dans la connaissance de la Torah juive, l'Ancien Testament. On va dire, pour faire simple, c'est l'Ancien Testament. Quand ils grandissaient, ils apprenaient verset après verset, tout par cœur, et ils connaissaient des livres entiers par cœur. Ils avaient une connaissance de la parole de Dieu, on peut le dire, qui était sans pareil. Et ainsi, eux-mêmes, quand ils la connaissaient, pouvaient la transmettre à nouveau aux enfants. D'ailleurs, Jésus lui-même s'est retrouvé dans le temple à discuter avec des pharisiens qui l'enseignaient. Jésus a appris aussi quand il était plus jeune. Donc il connaissait la Torah par cœur, il connaissait la parole de Dieu par cœur. Les pharisiens, ils appliquaient la loi dans la moindre instruction, à la lettre ils l'appliquaient. Et c'est Jésus qui leur dit lui-même, vous savez donner la dîme de la menthe et du cumin. C'est pour dire que dans les moindres détails, ils appliquaient la loi, ils étaient irréprochables. Ces pharisiens enseignaient le peuple. Donc ils étaient bien placés dans la société et ils transmettaient ce qu'ils avaient compris, et ils transmettaient les enseignements de la parole. Les enseignements étaient transmis ainsi de génération en génération et ils réexpliquaient ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu, etc. Et c'est ainsi que tout était transmis. Ces pharisiens, ils ne vivaient que par ou pour leur fonction. Ceux qui étaient pharisiens, ils étaient mis de côté et ils avaient une vie consacrée à ce service. Ils priaient et ils jeûnaient, les pharisiens. Ils le faisaient peut-être en public, mais ils le faisaient quand même. Ils priaient, ils jeûnaient, ils faisaient de longues prières. Ils avaient quelque part ce souci que Dieu soit respecté aussi. Quand ils demandent à un aveugle de s'expliquer, ils lui disent d'abord « Honore Dieu ». Donc dans leur cœur, ils avaient vraiment un désir que Dieu ne soit pas sali, qu'il soit respecté, etc. Ces pharisiens avaient une certaine liberté. Voilà d'un point de vue extérieur à quoi ressemblaient ces pharisiens. Le brigand, c'est tout autre chose. Le brigand, c'est un maudit. Je vais vous citer un verset qui est justement dans la Torah qu'apprenaient les pharisiens, qui dit ceci: « Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Celui qui était crucifié, pendu au bois, c'est ça que ça veut dire, il était maudit. Et on sait très bien, lui aussi, même s'il était brigand, il connaissait un petit peu la parole de Dieu, parce que l'État était juif, et quand les enfants ils reçoivent aussi toutes les instructions, il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il était maudit. Donc lui, il s'y attendait à son sort final. Le brigand, il savait aussi autre chose, c'est que son sort, il le méritait. À un moment donné, il reprend son compère et lui dit « Mais pour nous, c'est justice qui nous arrive. » Donc, ceux qui étaient pendus au bois, il faut savoir qu'au temps des Romains, la crucifixion, c'était le supplice le pire. C'était réservé pour l'élite des brigands. C'était pour ceux qui faisaient les pires choses. Aujourd'hui, quand on écoute certaines nouvelles, ça nous fait frémir, ça nous fait froid dans le dos. Et ce brigand était de ceux-là, de ceux qui, quand on écoute ne serait-ce qu'une partie de ce qu'ils ont fait, on est tout retourné quand on imagine l'atrocité du crime. Ce brigand faisait partie de ceux-là, pour qu'il ait mérité la crucifixion. Ce n'était pas un enfant de cœur. J'aimerais qu'on le comprenne bien, ce brigand-là, c'était pas un enfant de cœur. Il était tombé très très bas. Au départ, qu'il se retrouve sur la croix, il connaît son sort, il voit qu'il est crucifié avec d'autres, et il persiste dans sa voie mauvaise. Et au début, Jésus, il l'insulte aussi. Donc il persiste dans sa voie. D'un point de vue extérieur, on est loin de se douter de ce qui va lui arriver. Et au final, quelque part, ce brigand, il est dans une situation où, quand on le regarde d'un point de vue extérieur, il est esclave. Il est attaché sur une croix. Il ne peut plus bouger, il ne peut rien faire. Il ne peut que subir ce qui lui arrive. Il n'a plus qu'à attendre son heure. Et il ne peut plus rien faire. Ça, c'est du point de vue extérieur. Quand on regarde la scène de l'extérieur. Quand on regarde les pharisiens de l'extérieur. Quand on regarde la scène de la crucifixion de l'extérieur. C'est ce qu'on voit. Qu'en est-il si on va un peu plus loin et qu'on essaye de creuser un peu et qu'on regarde à l'intérieur? Les pharisiens, quand on lit les évangiles, quand on regarde les remarques que Jésus, les avertissements qu'il leur donnait, etc., on arrive à en trouver des choses qui ne sont pas glorieuses du tout. Ces pharisiens, ils leur est reproché d'être hypocrites. Donc l'hypocrisie, c'est quand on paraît bien en extérieur, mais qu'à l'intérieur, c'est pas vrai. Ça ne reflète pas, notre extérieur ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur. Les pharisiens étaient hypocrites. Le plus important à leurs yeux, qu'est-ce que c'était? C'était d'être bien vu des autres, d'être considéré. Il fallait que les gens, quand ils passaient dans la rue, aient une déférence pour eux. Vous savez, on le voit encore hein, dans nos jours, des personnes haut placées dans la religion se font appeler avec des titres. Et d'ailleurs, les titres, c'est une petite parenthèse, mais les titres, il ne faut pas nous attacher aux titres. Et nous, en tant que chrétiens, il faut respecter nos conducteurs spirituels, c'est vrai, mais faisons attention aux titres, parce que les titres enorgueillissent ceux qui conduisent. Et on a des tas d'exemples dans des tas de religions où chaque conducteur spirituel a un titre et à la fin, le titre nous colle à la peau et on s'enorgueillit du titre qu'on a. Les pharisiens, c'était un peu ça aussi. Ils voulaient être considérés des autres. Les pharisiens appliquaient la loi au trait de la lettre, mais ils n'avaient pas du tout compris ce que Dieu voulait à travers cette loi. Ils avaient complètement oublié la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Ils avaient complètement mis de côté le fait que la loi était là pour qu'elle soit exercée dans le cadre de l'amour. Et eux, ils en étaient dépourvus. Ils n'avaient pas de bonté, ils étaient durs. Ils étaient toujours prêts à exercer le moindre jugement vis-à-vis de quelqu'un qui enfreignait la loi. Jésus en a fait les frais. Dès qu'il guérissait un malade le jour du sabbat, les pharisiens lui tombaient dessus. Ils disaient, mais tu respectes pas la loi? Pour eux, le respect de la loi était plus important que les actes d'amour, de bonté. Or, c'est pas ce que Dieu voulait. Ces pharisiens, ils étaient aveugles. Comme nous voulons le lire, ils étaient persuadés d'être fils d'Abraham. Que leur dit Jésus? Votre père, c'est pas Abraham, c'est le diable. Ils étaient persuadés d'être justes. Est-ce que nous comprenons à quel point, des fois, notre péché, notre religiosité peut nous amener à croire certaines choses qui sont complètement fausses? Ces pharisiens, ils étaient tellement pris dans ce qu'ils étaient, dans leurs défauts, dans leur nature, etc., qu'ils se croyaient juste, et ils ne l'étaient pas. Ils étaient convaincus. Et c'est pour ça que Jésus leur parle de cette manière. Jésus les affronte de face, et il leur donne des paroles. On peut dire que Jésus, quand on lit Jean 10, « Je suis le bon berger, je suis doux et humble de cœur », voilà ce que dit Jésus. Mais quand il parle aux pharisiens, vous avez lu avec moi, les paroles qu'il leur donne sont dures. Les paroles que Jésus leur donne, elles sont même acérées quelque part. Mais ils en avaient besoin, parce qu'ils étaient tellement durs. Vous savez, quand vous voulez couper un noyau, Et il faut pas. C'est compliqué de casser un noyau. Il faut prendre le marteau si on veut l'ouvrir. Et le cœur des pharisiens était comme un noyau. Et Jésus a dû utiliser le marteau pour atteindre le cœur. Et c'est pour ça qu'il leur parlait durement. Mais le but de Jésus, c'était pas de les casser. C'était de les atteindre pour qu'ils ouvrent les yeux, pour qu'ils comprennent qui ils étaient. Et quand on prêche ici, dans ces murs, qu'on prêche que oui, voilà, vous êtes pécheur, votre situation, il faut la régler par rapport à telle ou telle chose, vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Quand on dénonce certaines choses, c'est pas pour vous critiquer, c'est pas pour vous casser ou quoi que ce soit. C'est parce que le péché, il faut le dénoncer. Pour qu'on puisse ouvrir les yeux, pour qu'on puisse se rendre compte que si on persiste dans cette voie-là, on ne va pas aller là où on pense. Les pharisiens pensaient qu'ils seraient allés au ciel, mais Jésus leur dit clairement que ce n'est pas la voie qu'ils étaient, sur laquelle ils étaient. Les pharisiens, ils étaient orgueilleux. Ils n'acceptaient pas d'être enseignés par un plus petit qu'eux. À un moment donné, dans les évangiles, on le lit aussi, il y a un aveugle qui a eu les yeux ouverts, et à un moment donné, il lui demande des explications, et cet homme-là, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, mais il est de lui-même une certaine hardiesse, et on voit qu'il connaissait la loi aussi, il connaissait les écrits, parce qu'il leur répond bien comme il faut, et les pharisiens n'acceptaient pas l'enseignement. Ils étaient orgueilleux, ils se croyaient au-dessus des autres. Ils étaient aussi jaloux. Ils n'acceptaient pas la popularité de Jésus. Ils voulaient rester au-dessus. Et cette jalousie, à quoi les a-t-elle poussés ? À supprimer Jésus qui, entre guillemets, qui marchait sur leur plate-bande. Ils ne pouvaient pas le supporter. Ces pharisiens, ils avaient tous ces sentiments-là. Et au final, ces sentiments-là les tenaient liés. Finalement, les pharisiens, ils étaient esclaves de qui ils étaient. Les pharisiens étaient esclaves. Et des fois, on peut être dans cette situation-là où on a une certaine religiosité. On vient à l'église, on vient à des réunions comme celle-ci. On veille à ce qu'on fait. On a une certaine manière de vivre qui n'est pas foncièrement mauvaise. Alors on se satisfait de notre vie. Et on considère qu'en restant sur cette voie-là, on va obtenir le salut. Mais non, c'est pas comme ça qu'on est sauvé. C'est pas en ayant cette suffisance, c'est pas en ayant cette attitude orgueilleuse, parce que souvent, quand on en arrive à faire des choses qu'on estime être bonnes, l'orgueil est jamais loin. Parce qu'on croit que nous, on fait bien, et que tous les autres autour, ils font mal. Nos bonnes œuvres nous perdent. Parce qu'elles nous font rentrer dans un système qui n'est pas un système qui vient de Dieu. Elles nous font rentrer dans un système qui nous illusionne complètement. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Ces pharisiens, d'un point de vue extérieur peut-être, avaient une allure de personne qui plaisait à Dieu, mais c'était tout l'inverse quand on regarde à l'intérieur. Ils paraissaient libres à l'extérieur, à l'intérieur ils étaient esclaves. Parce que jamais ils n'auraient osé se remettre en question devant le peuple. Jamais ils n'auraient pu accepter le fait que Jésus avait raison et ce Jésus qui venait d'on ne sait où, de Galilée, ils étaient mal vus à l'époque, les Galiléens, et Jésus faisait partie de ceux-là. Il a été méprisé par les pharisiens au même titre que n'importe qui d'autre. Et ces sentiments qui étaient en eux étaient si forts qu'il leur était devenu difficile, voire impossible, de s'humilier devant le peuple et d'admettre leur erreur, d'admettre qu'ils se soient trompés. Le problème, souvent, c'est que le salut, on ne l'obtient pas parce qu'on n'arrive pas à admettre quelque part que dans notre vie, on a pris des mauvaises directions. Dans notre vie, on s'est autorisé tel ou tel écart. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on se retrouve confronté à la réalité du péché et qu'on comprend que ces choses-là, ce sont des choses qui nous séparent de Dieu, mais que accepter Dieu, accepter de réparer ça, de demander pardon au Seigneur, ça nous demande une certaine humiliation, on le refuse. On est comme esclave de tout ce qui a triomphé de nous, c'est la Bible qui le dit. On est esclave et on ne peut pas s'en sortir. Pourtant, Dieu veut nous libérer. Regardons un petit peu le brigand. Le brigand, c'est un peu plus simple, son histoire. Lui, dans sa vie, il a commis l'irréparable. Il se retrouve sur une croix, un cœur dur, chargé de tous ses crimes. Je pense que quand on arrive à faire des crimes à répétition, on a pu s'endurcir de certaines choses. On voit d'ailleurs que ce brigand insulte bien Jésus au début. Mais ce brigand, il a pour lui d'avoir un esprit lucide sur sa situation. Il sait où il va. Il en est persuadé. Il sait que par la vie qu'il a menée, il est perdu. Ce qu'il a pour lui, ce brigand, c'est que sur la terre, il est déjà dans l'humiliation. Il est déjà sur la croix. Il est déjà très peu vêtu devant tout le monde, en train de souffrir devant tout le monde. Il est déjà en train de payer sur la terre pour ses forfaits. Donc le brigand, quelque part, il n'a pas besoin de s'humilier plus. Et c'est un atout. C'est un atout. Il est tout en bas. Il est déjà tout en bas. Et cet atout-là, c'est une liberté. Cet atout-là, c'est une vraie liberté. Il est tellement bas qu'il est complètement libre de demander au Seigneur le secours. Il est complètement libre de se confier en Dieu, malgré la situation. Il a ce bon réflexe. Quand il voit Jésus parler sur la croix, il ouvre les yeux, il comprend, il voit quelque chose, il dit « mais c'est pas normal comment il parle ». Jésus, il entend Jésus leur dire « pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il voit ça, il est forcément touché. Sinon, il n'aurait pas fait cette prière. Tout ce que fait Jésus, tout ce que dit Jésus alors qu'il est sur la croix aussi, le touche profondément. Ce brigand a une réflexion. Et maintenant, regardons ce qui s'est passé suite à la rencontre de Jésus. Comment ont réagi les pharisiens ? Jésus leur dit qu'ils ont pour père le diable parce qu'ils se sont enfermés encore plus. Et ils ont persisté dans leur opposition. Et ils n'ont fait absolument aucun cas des paroles de Jésus. Sinon, peut-être quelques-uns, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est que cette mauvaise réaction va les faire empirer. Au point que quand Jésus ressuscite, ils vont jusqu'à manigancer une affaire pour que tout le monde croie que Jésus n'est pas ressuscité. On le lit dans Matthieu. On va le lire, tenez, si vous en avez un doute, regardez. Matthieu 28. C'est pour qu'on puisse comprendre à quel point on peut s'enfermer dans des raisonnements et on peut croire qu'on est toujours dans la bonne voie. Matthieu 28. Ah, il me semble que c'est dans 28. Oui, voilà. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs, donc les pharisiens, tout ce qui était arrivé. Donc la pierre a été roulée, le tombeau est vide, il n'y a plus personne. Les gardes qui étaient censés garder le tombeau, eh bien, ils n'ont rien vu venir. Vous avez vu le verset 12 ? Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. » Dans quel égarement ils étaient ? Ils n'ont pas reçu la parole que Jésus leur donnait. Résultat des courses, ils se sont enfermés davantage. Ils se sont privés davantage de la grâce que Dieu voulait leur donner. Et j'aimerais vous dire ce soir que ce n'est pas le tout de venir aux réunions et de venir, de revenir et de re-revenir. Mais quand dans notre vie, on est dans une situation comparable où on est esclave du péché, j'aimerais t'avertir que tu risques de faire comme les pharisiens et de t'enfermer davantage, de t'endurcir davantage. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 7, il est écrit de ne pas nous endurcir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le problème de la prédication de l'Évangile, c'est qu'elle a deux effets. Soit elle permet d'être sauvée, ou soit elle provoque un endurcissement. Et si tu résistes, tu t'endurcis. Et comme les pharisiens, tu pourrais même te persuader encore plus. Et non seulement ils étaient persuadés eux-mêmes qu'ils étaient justes, ils étaient persuadés dans leur égarement, mais ils ont été jusqu'à essayer de persuader les autres après. Et ils pensaient toujours qu'ils iraient au ciel. Mais ils allaient tout droit en enfer. Il faut le dire. Le brigand, lui, à l'écoute de la parole de Jésus. Il est touché. Le brigand, il dit « Souviens-toi de moi, nous l'avons lu tout à l'heure. » Jésus lui annonce le paradis. Malgré tout, n'aurait-il pas pu se dire « Non, c'est impossible. » Là, non. Tu peux me dire ce que tu veux, mais là, je ne te crois pas. C'est impossible. Quand est-ce qu'il a saisi son salut, ce brigand? C'est important de réfléchir à ça. Certes, il fait une prière. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a eu le cœur travaillé, c'est bien. Jésus lui donne une parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et là, il est devant un choix. Là, il est devant un choix. Une promesse lui est donnée, mais il est devant un choix. Est-ce que j'y crois, cette parole, ou est-ce que j'y crois pas? Est-ce que je l'applique pour moi, cette parole, ou est-ce que je l'applique pas pour moi? Si le brigand, il s'était dit en lui-même, non, c'est... Arrête. T'as vu où je suis? T'as vu ce que j'ai fait? Non, c'est pas possible. Le salut, il est pour tous. Ce brigand là sur la croix, il nous prouve que le salut est pour tous. Et quoi que tu aies fait, aussi bas es-tu pu descendre, le Seigneur veut te restaurer, il veut te relever, il veut te sauver comme ce brigand a été sauvé. Ce brigand, il a saisi cette parole, il y a cru de tout son cœur. Et je suis persuadé que même si sa mort a été difficile, il a vécu là les meilleurs moments de sa vie. Il attendait sa mort, certes, mais il attendait un moment heureux. Parce que Jésus lui avait promis le paradis. Donc lui, alors qu'il pensait se diriger en enfer, on voit une personne qui, juste au dernier moment, va changer de direction. Et lui, il va aller au paradis. On voit donc qu'une personne, des personnes qui ne règlent pas leur péché à cause de l'orgueil qui les empêche à cause de tout ça, la fierté personnelle peut-être, et l'autre qui se retrouve libre parce que alors qu'il est dans l'humiliation totale, qu'il reconnaît sa bassesse, qu'il reconnaît ce qu'il est, il fait appel à Dieu et il se retrouve pardonné. Le Seigneur Jésus était en train de mourir pour lui. Il était en train de porter les péchés de l'humanité. Son sang a coulé. Il a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est pour ça que ce brigand a pu être sauvé. C'est pas par ses œuvres, on le voit bien. Il n'a pas été sauvé par ses œuvres, mais par contre, sa foi dans la parole de Jésus l'a sauvé. Par sa foi, il a été sauvé. Et j'aimerais te dire ce soir que si tu ne crois pas que tu peux être pardonné de tes péchés et que tu ne saisis pas par la foi. C'est bien de reconnaître ton état de péché. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut accepter la parole que tu reçois là maintenant ce soir qui te dit que si tu demandes pardon, alors tu es pardonné de tes péchés. Il faut la saisir, cette parole, et y croire profondément, comme ce brigand. Quand Jésus lui dit « Tu seras avec moi dans le paradis », il avait encore le choix. Il aurait pu encore se tromper, mais non, il a cru à cette parole. Il a tenu cette parole dans son cœur. Et c'est ainsi qu'il a pu aller au paradis, parce qu'il a serré cette parole contre lui. Ce soir, c'est la même chose. Peut-être que tu entends la parole et que tu comprends que oui, tu sais que tu es pécheur, tu sais que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et là, je suis en train de te dire que quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur te pardonne, tu peux être pardonné parce que Jésus est mort, son sang a coulé pour toi, il t'aime. Et tel que tu es, il veut te sauver. Il faut juste que tu lui demandes pardon et que tu acceptes par la foi que ce salut est valable. J'aimerais conclure sur une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 24. C'est un verset qui résume tout à fait ce que nous venons de voir. Et c'est une triste parole. Mais on peut la lire comme on veut, cette parole. C'est Jésus qui parle, il parle d'un homme riche. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit de cet homme-là? Parce que cet homme a... Cet homme a refusé ce que Jésus lui tendait, voulait lui donner. Et Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc on a d'un côté des personnes qui avaient des biens. Ils avaient la parole de Dieu, ils avaient un enseignement, ils avaient plein de choses. Mais ils s'appuyaient sur ce qu'ils avaient et ils ne pouvaient pas recevoir la parole de Dieu. À côté de ça, on a un autre qui, lui, n'avait rien, sinon son péché. Et il s'est approché de Dieu avec son péché. Et il a demandé à Dieu sa grâce. Et il l'a reçue. Et il est entré. Est-ce que nous comprenons bien ? Ce brigand, il s'est repenti. Il nous faut avouer nos fautes. Il nous faut nous approcher de Dieu. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants.